Sur Radio Campus Tour, vous écoutez La Méridienne. Ça y est, l'émission est de retour sur les ondes. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir un invité en studio. Eh bien, c'est Damien Accoulon. Bonjour.
Bonjour.
Alors, Damien Accoulon, voilà, je vous laisse vous rapprocher de votre micro. Eh bien, les invités doivent tout faire dans ce studio. Donc, Damien Accoulon, vous êtes maître de conférences en histoire contemporaine à l'Université de Tours et vous faites partie du laboratoire CETIS. Donc voilà, tant mieux, c'est bien que vous veniez dans cette émission parce que c'est quand même rare d'avoir ici des historiens. Et vous êtes spécialiste de l'aéronautique, des guerres et des conflits au XXe siècle. Est-ce que c'est bien ça?
Oui, absolument.
Voilà, donc est-ce que vous voudriez nous en dire plus peut-être sur le CETIS? Je crois que vous êtes arrivé récemment à Tours.
Oui, donc j'appartiens au Centre Tourangeau d'Histoire et d'Études des Sources depuis un an maintenant. Et donc c'est un laboratoire qui axé très fortement sur l'histoire, mais qui est transdisciplinaire, puisque nous avons aussi des linguistes, des historiens et historiennes de l'art, une petite équipe par rapport à la France, mais quand même une trentaine de chercheurs titulaires et beaucoup de doctorants et de chercheurs associés. Donc c'est un centre très dynamique, vraiment, qui mène beaucoup de projets sur la région Tourangelle et plus largement. Donc je suis ravi d'appartenir à cette équipe.
Voilà, donc spécialiste de l'aviation, de l'aéronautique, mais voilà, donc ce ne sera pas le sujet de cette émission, peut-être que vous reviendrez plus tard avec une publication, puisqu'aujourd'hui on va parler de Missak et Méliné Manouchian. Alors peut-être que vous voudriez peut-être nous rappeler qui sont Missak et Méliné Manouchian. Donc au commencement était l'Arménie, donc qui est Missak Manouchian?
Alors, Missak Manouchian, donc, c'est un Arménien qui est né dans l'ancien Empire ottoman en 1909 à Adıyaman, qui est donc à l'ouest de l'Anatolie, donc de la Turquie actuelle, mais à l'ouest, assez à l'ouest en fait, de l'Arménie historique, hein, la région des lacs, qui constitue un peu le cœur vibrant historique de l'Arménie. C'est donc un Arménien qui naît en tant que minorité dans cet empire ottoman plutôt dominé par les turcophones, donc cette minorité arménienne qui est historiquement une minorité qui assiste et qui est très fidèle à l'Empire en tant que serviteur de l'Empire, entre guillemets. C'était l'Empire ottoman s'est beaucoup appuyé sur ces minorités lettrées qui, justement, disposaient d'un capital culturel qui avait une tradition administrative forte, sans menacer le pouvoir, puisqu'ils étaient une minorité religieuse, ce sont des chrétiens. À la fin du XIXe siècle, la dynamique tend à s'inverser, puisque l'Empire ottoman est considéré un peu comme l'homme malade de l'Europe. C'est un empire qui s'affaiblit et qui est de plus en plus contesté par l'empire russe dans le Caucase. Et donc une méfiance croissante naît à l'égard de cette minorité arménienne, ce qui conduit à un certain nombre de massacres et d'exactions. Donc les Arméniens qui sont de plus en plus stigmatisés jusqu'à la Première Guerre mondiale, où intervient ce qu'on connaît et ce qu'on a reconnu comme le génocide arménien, qui va faire plus d'un million de victimes. Et Missak Manouchian est un jeune enfant dans ce contexte qui voit ainsi tuer son père lors de la résistance de ces Arméniens à Édesse en particulier, où il y avait un grand quartier arménien. Et c'est ainsi qu'il est poussé à l'exil avec ses frères et sa mère en tant que... Arménien, il est donc forcé de marcher vers les régions du sud de la Turquie, ce qui serait aujourd'hui, enfin du sud de l'Empire ottoman, ce qui serait aujourd'hui la Syrie, aux marges donc de l'Anatolie. Et c'est lors de cette longue marche que des centaines de milliers de personnes meurent. À l'aboutissement de ce trajet, de cette migration forcée, il est donc avec sa famille employé comme domestique dans des familles turques de la région, mais donc dans une grande précarité. Sa mère meurt d'ailleurs 4 ans après leur installation dans cette région aux marges de la Syrie, du Liban et de la Turquie actuelle, ce qu'on pourrait appeler le Kurdistan, même s'il n'est pas reconnu à l'époque. Dans cet exil, c'est une étape marquante de la vie de Missak Manoukian, hein, donc, puisque fils de paysan, il n'était pas forcément destiné à se retrouver dans cette situation. Il devient orphelin et donc est pris en charge avec ses frères dans des orphelinats séparés. Ses frères sont pris en charge par le Nearest Relief et lui-même se trouve dans un orphelinat du Liban. Le Liban qui, à l'issue de la Première Guerre mondiale, nous y sommes, le Liban qui est une terre de mandat français, donc qui a une éducation en français. Et c'est dans cet orphelinat qu'il est formé à la menuiserie d'une part, mais aussi, plus généralement, aux lettres. Il a la chance de... C'est une constante hein, dans le parcours de ces Arméniens qui se retrouvent dans le Liban mandataire à cette époque. Il a la chance de bénéficier de l'éducation d'instituteurs arméniens qui enseignent donc à la fois la culture et la langue arménienne, mais en même temps la langue française. Et ça, c'est un des fondements hein, de la passion de Missak pour les lettres. Il passe beaucoup de temps dans la bibliothèque et entretiendra toujours une correspondance assez forte avec cet instituteur marquant. Donc, on est là, Missak devient un jeune homme, hein, il a 16 ans, 17 ans dans la période qu'on évoque. Quand en 1924, il profite de ce qu'on appelle un passeport Nansen, c'est-à-dire un passeport qui est mis en place à la suite de la Première Guerre mondiale et des grands bouleversements qui transforment la région, puisque la formation des États-nations à la suite de la décomposition des empires va impliquer une reconfiguration des équilibres régionaux. C'est-à-dire que, avec ce principe de l'État-nation, et notamment c'est très sensible en Turquie, vous avez une éviction des minorités nationales et les Turcs expulsent d'une part les Grecs à l'ouest de l'Empire et les Arméniens à l'est, si bien que ces populations déplacées, il faut bien les gérer. Et c'est une des grandes innovations de cette sortie de guerre, le passeport Nansen, qui va permettre donc à des réfugiés de devenir apatrides et de disposer de la possibilité, grâce à ces passeports, de voyager et de se déplacer vers d'autres régions du monde. Et donc en 1924, Missak bénéficie d'un passeport Nansen et il en profite pour donc rejoindre la France en 1924, où son frère est déjà installé. Et c'est à ce moment-là qu'il arrive en France et s'installe d'abord à la Seyne-sur-Mer, où il va travailler sur les chantiers en tant qu'ouvrier menuisier, avant de rejoindre Paris, où il y a plus de travail potentiel, et là où il intègre donc les usines d'automobiles, notamment Renault et Citroën. Il devient ouvrier tourneur. Puisqu'on est à un moment, en sortie de Première Guerre mondiale, où les bras manquent, puisqu'on a eu des millions de morts sur le continent européen, et pour pallier à ce déficit de main-d'œuvre, ce manque d'hommes, pour ainsi dire, l'appel à cette main-d'œuvre étrangère est une solution, est une ressource, et notamment dans des emplois relativement précaires, hein, ce qu'on appelle des journaliers à l'époque, c'est-à-dire où vous êtes recruté à la journée. C'est ce qui permettait à Missak de travailler sur les chantiers du bord de la Méditerranée. C'est ce qui permet à Missak de travailler dans les usines Citroën à Javel. Pour ce qui est de Méliné, c'est aussi une Arménienne. Mais elle représente entre guillemets l'autre face de l'émigration arménienne à cette époque, puisque elle fait partie de la communauté arménienne de Constantinople, l'actuel Istanbul, et elle est née en 1913. Elle appartient justement à ces familles héritière d'une tradition de serviteur de l'État, puisque son père est directeur dans l'administration des postes. Et ses deux parents, lors de la Première Guerre mondiale encore, à partir de 1915, sont victimes du génocide. Ses deux parents sont assassinés. Elle se réfugie alors chez sa sœur et ses deux sœurs sont prises en charge, là encore, par la bienfaisance qu'on appelle la philanthropie internationale. Elle trouve refuge en Grèce au moment justement de cette grande recomposition de l'ancien empire ottoman et sa structuration en Turquie moderne. Et là, elles connaissent une grande période de précarité dans un orphelinat grec, avant, là encore, de bénéficier justement de ces possibilités de migrer vers la France et notamment de bénéficier d'une éducation là dans une école arménienne à Marseille et ainsi d'être formée à la dactylographie et à la comptabilité. Et après quelques années passées dans le sud de la France, elle aussi rejoint la région parisienne, mais c'est elle, plutôt l'autre partie de Paris, le nord-est, vers le Pré Saint-Gervais et puis le nord-est de Paris où elle travaille avec sa sœur dans ses petits emplois de comptabilité. Là où les trajectoires se rencontrent, c'est donc dans cette communauté arménienne qui est très dense et très vive à Paris, puisque cette éducation qu'ils reçoivent dans la philanthropie, dans la charité et dans les terres mandataires françaises les a conduits vers la France. Cette communauté arménienne, elle est très soudée, justement. Elle a été peut-être ressoudée encore plus fortement à la suite du génocide. On est là avec donc des gens qui sont vraiment arrachés à leur territoire et qui se retrouvent donc à Paris dans des positions plutôt subalternes, hein, des petits boulots. Et c'est cette condition qu'à l'époque on appelait ouvrière qui va les rapprocher d'un cercle politique, le communisme. Et donc c'est à la fois dans cette communauté arménienne et cette communauté communiste que Méliné et Missak se rencontrent en 1934, puisque tous deux sont actifs dans cette communauté arménienne et communiste. Ils sont élus dans ce mouvement communiste arménien à partir de 1934. Et vont connaître donc un amour qui donne donc lieu à un mariage dans les suites de cette rencontre.
Alors j'avais quelques questions additionnelles, Damien Acoulon, sur ce passeport d'Ansen. Donc ça crée, si je peux dire, des apatrides. Est-ce que c'est une gestion, disons, des personnes qui sont devenues non bienvenues, on va dire, dans leur pays, qui était fréquente? Est-ce qu'il y a d'autres exemples de cette façon de gérer ces personnes, c'est-à-dire de créer des apatrides qu'on envoie où ils peuvent aller?
Alors, par la suite, le statut d'asile et d'exilé politique est mis en place plus fermement, mais le passeport Nansen, c'est vraiment une création originale qui donc naît en 1922 et perdure jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, mais et même en fait un petit peu après, dans les années 50, il y a des dispositions transitoires, mais non, ça reste assez original. C'est il faut plutôt voir ça à l'époque, en tout cas c'est comme ça que le conçoivent les dirigeants. Il faut plutôt voir ça comme une solution concrète et pratique à un problème qui se pose immédiatement. Initialement, ça reste très européano-centré, c'est une solution en réalité pour aider les Russes blancs, donc ceux qui étaient opposés à l'émergence de la Russie bolchevique et qui potentiellement aussi étaient persécutés par eux. C'est vu comme une solution pour permettre à ces Russes blancs d'émigrer comme ils le souhaitent en Europe. Et dans le contexte de notamment cette guerre très importante à la suite de la Première Guerre mondiale qui intervient entre la Grèce et la Turquie, c'est un moyen, là encore, d'étendre un dispositif qui était vraiment très localisé, en un sens, dans l'idée, à un ensemble beaucoup plus vaste de déplacés sur le continent européen. Mais ce type de migration n'étant pas intervenue après la Seconde Guerre mondiale en Europe, on n'a pas eu de dispositif comparable pour d'autres types de conflits dans le monde. Même si le dispositif Nansen, en tant qu'il est mis en place dans le contexte de la Société des Nations, est un dispositif mondial. Mais là, il y a encore des recherches qui sont en cours. J'ai un certain nombre de collègues qui travaillent à essayer de véritablement mesurer, puisque curieusement, en fait, on n'a pas encore de chiffres tout à fait précis sur l'ampleur du dispositif et sur ses mécanismes. Donc j'ai des collègues qui travaillent en ce moment, notamment aux Pays-Bas, à véritablement bien cerner les contours de ce dispositif. Mais donc c'est quelque chose d'assez exceptionnel et d'assez unique dans l'histoire.
Et alors, quand on est dit apatride, est-ce qu'il y a une importance particulière de sa communauté d'origine dans le pays où on arrive ?
Alors oui, puisque en fait, en tant qu'apatride, arrivant dans un pays nouveau, il faut trouver des ressources, un point de chute, entre guillemets. Et la communauté linguistique, notamment, la communauté d'origine, est évidemment une ressource pour prendre pied dans ce pays nouveau et inconnu, entre guillemets. Quand Missak arrive en France, il connaît certes les lumières et les lettres françaises, mais c'est à peu près tout ce qu'il connaît du terrain. Donc heureusement, son frère est là pour lui mettre le pied à l'étrier, entre guillemets, et la communauté arménienne est une ressource, un cercle de solidarité pour permettre à ces nouveaux arrivants de prendre pied, comme on trouve à l'époque également des grandes communautés italiennes ou yiddish dans la région parisienne.
Et alors une autre question sur vous avez évoqué ces quotas d'ouvriers apatrides ou étrangers là, dont avait besoin l'industrie française, est-ce qu'ils étaient toujours bien reçus ?
Alors, non, évidemment.
Non, évidemment.
Malheureusement. la question des travailleurs étrangers en France, elle prédate très largement à la Première Guerre mondiale. Hein. On la retrouve très fortement avec un certain nombre d'exactions, hein, le massacre des Italiens de Rivesaltes, plus généralement le rapport du mouvement ouvrier aux ouvriers étrangers qui sont toujours accusés de voler les emplois de ceux qui étaient là avant eux. C'est une histoire compliquée et là vraiment il n'y a pas de positionnement politique particulier, que ce soit à droite ou à gauche, on retrouve ces mêmes tensions qui traversent malgré une volonté universaliste ou internationaliste. Malheureusement, cet accueil n'est pas toujours bon. Alors, les quotas ne sont pas forcément mis en place immédiatement. Justement, dans ce contexte des années 20, de reprise économique où les bras manquent, il n'y a pas de politique de quotas. Les ouvriers étrangers profitent de ce mouvement de reprise, participent à cette reprise économique, puisque les bras manquent. En revanche, à partir du moment où la crise économique intervient, en 1929, et ça touche en réalité la France plutôt vers 1930-1931, là, l'étau se resserre, pour ainsi dire. Justement, il y a une crispation poussée là assez nettement par les journaux d'extrême droite qui commencent à être inspirés par le fascisme, mais qui rencontrent une adhésion assez large dans le monde politique de cette époque, une pression pour justement imposer des quotas de travailleurs étrangers et à partir de 1932, une loi sur le quota d'étrangers pouvant être employés par les entreprises est passée. Alors, elle ne porte pas tout à fait ce nom de loi des quotas, hein, mais elle prive de fait un certain nombre d'étrangers. Donc, cette loi sur la protection de la main-d'œuvre nationale, hein, je la cite, d'août 1932, va menacer et conduire surtout au chômage un grand nombre d'étrangers, y compris ceux qui étaient déjà présents sur le territoire. Et c'est pour cela que cette loi concerne largement Missak, qui, à ce moment-là, a du mal à trouver du travail et va donc trouver justement un réseau de solidarité, des emplois dans la communauté arménienne et le communisme, notamment par le travail de la plume.
On peut dire aussi, je crois, qu'il a créé des revues.
Oui, absolument. Donc, en tant qu'ouvrier, certes, mais passionné par la littérature, lettres françaises ou arméniennes, il cofonde des revues. Alors, une petite revue de littérature arménienne et française qui s'appelle Chank, justement, dans cette fin des années 20. Et puis, surtout, plus tard, il prend en charge la revue du mouvement communiste arménien à Paris dans les années 30, qui contribue justement à lui apporter un petit revenu. Et c'est ce moment des années 30 qui va être, entre guillemets, sa plus grande période de production littéraire et artistique, où il participe justement à faire passer les lettres françaises en arménien et inversement dans cette revue.
Voilà, donc c'est pas forcément un chantre du prolétariat.
Non, pas spécialement. C'est un poète, il se voit comme cela. Il participe à des réseaux, justement, en tant que rédacteur en chef du journal Tsangu, donc c'est le journal du mouvement arménien communiste. Il participe évidemment à ce mouvement ouvrier, mais ce n'est pas, effectivement, il n'exalte pas le prolétariat, c'est pas un Gorki français ou arménien, si on veut.
Je vous propose de faire une première pause musicale dans cette émission. On va écouter un chant traditionnel arménien par le collectif Metz Bazar. On se retrouve tout de suite après sur Radio Campus Tour. C'est toujours la Méridienne. Et je vais de ce clic lancer la musique.
On va voyager dans les montagnes de Mok avec une chanson arménienne, une chanson traditionnelle arménienne qui parle des montagnes de Mok. Les montagnes de Mok nous manquent. Thank you.
Gore-Tex, des couches isolantes en pagaille.
Et nous revoici sur Radio Campus Tours, c'est toujours la Méridienne. Et on remercie Radio France qui nous permet de diffuser ce beau live d'un traditionnel arménien. Alors je suis toujours en studio avec mon invité Damien Akoulon, maître de conférence en histoire contemporaine à l'université de Tours. Et nous parlons de Missak et Méliné Manouchian. Alors vous nous disiez avant cette pause musicale que c'était des militants communistes, hein, donc ils ne faisaient pas semblant. Mais peut-être que vous voudriez nous en dire plus sur quelle obédience, en fait, quel type de communiste était-il ?
Alors oui, donc ce sont des communistes qui lient très fortement en réalité leur origine avec leur engagement, puisque donc ils s'investissent en particulier dans des comités arméniens communistes et inversement dans le comité français de secours pour l'Arménie. Ils engagent largement leurs convictions politiques. Ils deviennent communistes, en particulier Missak, par antifascisme et par pacifisme. Ils sont associés au mouvement Amsterdam-Pleyel, donc c'est une des racines de leur engagement, une des sources. Missak s'engage très clairement, il s'encarte dans le Parti communiste après des années de sociabilisation avec des communistes, mais il s'engage véritablement au lendemain du 6 février 1934, quand il y a eu une menace de prise de pouvoir par des mouvements fascistes en France. Donc là, on a une origine très nette de l'antifascisme dans leur engagement. Par la suite, le développement de leurs engagements, manifestent une sensibilité stalinienne. Ils souhaitent une république soviétique d'Arménie et donc soutiennent pleinement le pouvoir soviétique. Et ils s'impliquent très fortement dans cet engagement avec un militantisme affirmé qui se retrouve dans la distribution de tracts, dans l'engagement dans des journaux communistes. Et leur engagement dans la résistance est une suite de cet engagement, puisqu'ils continuent justement cette activité, mais cette fois-ci dans la clandestinité.
Alors pourquoi c'était risqué à l'époque d'être communiste ?
Alors c'est risqué parce que en tant que le Parti communiste français est une composante du Comintern, il répond potentiellement à des ordres de Moscou. Et donc évidemment, pour la République française, qui est une cible de cette Union soviétique, hein, l'objectif du communisme, c'est de prendre le pouvoir par la révolution prolétarienne et donc de renverser les institutions bourgeoises, donc de s'en prendre à ces institutions républicaines, en tout cas de ne pas y participer directement. Ces communistes sont une menace dans les années 30 pour le pouvoir en place. Et donc, les militants communistes font l'objet d'une surveillance particulière en tant qu'ils pourraient justement être une menace pour le pouvoir. Hein. Ils sont toujours vus comme des agents de Moscou, pour le dire assez clairement. Et donc, typiquement, ça a des effets concrets pour Missak, puisque au premier mois de la Seconde Guerre mondiale, donc en septembre 1939, il est interné en tant que communiste, et donc suspect potentiellement d'être un agent de l'ennemi. Il est libéré, puis engagé dans l'armée française, une fois que les soupçons sont levés.
Alors il y a des judéo-bolcheviques, selon la terminologie de l'époque, mais est-ce qu'il y a des arméno-communistes ou je ne sais quoi d'autre ?
Non, alors les arméno-communistes, si l'on veut, sont une réalité très concrète. L'accusation de judéo-bolchevisme est un moyen pour l'extrême droite de désigner des boucs émissaires ou des cibles, si l'on veut, sur une base plus ou moins objective. De fait, le Parti communiste, parce qu'il se revendique de l'héritage de la Révolution française, la Révolution française qui, à la suite des Lumières, a accordé plus de droits aux minorités religieuses, parce qu'il y a cette idée qu'un homme égale un homme et qu'il n'y a pas de hiérarchie entre les êtres humains, ce Parti communiste attire, dans les faits, plus de minorités. D'autant qu'il s'agit d'un mouvement qui est fortement enraciné dans le mouvement ouvrier. Et donc, de fait, dans le Parti communiste, il y a en moyenne un peu plus, notamment, de juifs. Mais de cette situation, l'extrême droite fait un épouvantail pour ce qu'elle considère justement être un repoussoir. Et donc cette association systématique, un communiste et donc un juif, et inversement, ce qui tendrait à agiter justement l'idée d'un complot, d'une menace larvée dans la société française. Donc ça, c'est un vocable qu'on entend beaucoup dans la France des années 20 et en particulier des années 30, lorsque les ligues fascistes émergent. Évidemment, là, on est sur des fantasmes qui mobilisent les foules, entre guillemets.
Alors, pardon pour l'anachronisme, mais est-ce que c'est du même tonneau que islamo-gauchiste ?
Alors, en tant que, justement, membre de l'université française, on fait partie aussi de ces accusations, donc là, je serais peut-être jugé parti. Mais oui, on est dans les mêmes ressorts, c'est-à-dire, une association qui va viser un amalgame sans forcément avoir de réalité concrète.
Donc pour en revenir à Missak Manouchian, il fait une demande de naturalisation qui est refusée.
Il en fait même deux. Il fait une première demande au début des années 30, justement, à la suite de cette loi sur les quotas. Donc, a priori, ce n'est pas directement lié, mais on peut quand même penser que la situation concrète fait que pour échapper à ces quotas, il a demandé la naturalisation. Bon, de toute façon, il ne l'obtient pas, justement, dans ce contexte de resserrement de l'étau et de la position de la France par rapport à cette main-d'œuvre immigrée. Donc, un premier refus. Et il fait une deuxième demande en 1940. Là, on est dans le contexte de la France de Vichy, qui ne donnera pas de suite, j'allais dire évidemment, à cette demande, puisque c'est un État qui est basé sur une idéologie nationaliste extrêmement forte et xénophobe.
Et alors, Mélinée Manouchian, elle ne demande pas à être naturalisée. Pourquoi ?
Alors, en réalité, elle va le demander, mais à son retour de l'Union soviétique dans les années 60, en 64. Elle rentre de l'Union soviétique en 62. Et donc, potentiellement, ça n'a pas eu de suite, puisqu'ensuite, elle obtient le statut de réfugié politique. Mais sans avoir tous les éléments du dossier, puisque c'est trop récent, je n'ai pas pu consulter les archives. Mais c'est vraisemblablement plutôt une demande de rester sans suite en raison du caractère trop récent de son retour en France.
Et donc, bon, deux refus de cette nationalité française, et malgré tout, il s'engage dans l'armée française.
Oui, absolument. C'était un des motifs mis en avant dans sa première demande de naturalisation en 1934, qu'il voulait effectuer son service militaire. Donc ça n'a pas pu avoir lieu, mais en 1939, ses services sont cette fois acceptés. Et alors, il ne va pas servir les armes à la main, ça resterait entre guillemets trop dangereux selon l'État français pour cet apatride. Il est envoyé lors de ce service dans le Morbihan pour donner des instructions de gymnastique à une compagnie stationnée là-bas pour former entre guillemets les jeunes recrues, puisque Missak est reconnu comme quelqu'un d'athlétique, et donc il donne donc des cours de gymnastique dans cette compagnie en Bretagne. Puis une fois la défaite acté que les forces allemandes nazies occupent le nord du pays, il est cette fois-ci affecté spécial, c'est-à-dire qu'on l'affecte à une usine de fabrication dans la Sarthe, mais donc avec beaucoup de restrictions quant à sa liberté de mouvement. Le pouvoir nazi n'est pas spécialement souple sur les conditions.
Et donc, de l'armée à la résistance, il n'y a qu'un pas.
Un pas, oui et non, c'est-à-dire qu'il n'a pas véritablement été formé au maniement des armes il doit, pour s'extraire de cette situation d'affecté spécial, il doit en fait s'évader de cette usine et trouver un moyen de rejoindre Paris par lui-même. Donc en l'occurrence, il trouve un camion avec un compagnon et il parvient à se faire ramener à Paris de cette manière-là, mais dans la clandestinité. Et c'est à ce moment-là donc qu'il, à son retour à la fin de l'année 41, après également une nouvelle période d'incarcération, puisque en 42... le régime soviétique est attaqué par l'Allemagne nazie lors de l'opération Barbarossa, et donc l'Union soviétique change de camp, n'est plus du côté de l'Allemagne nazie, mais passe du côté des alliés, donc de l'Angleterre et des États-Unis. Et donc, cette fois-ci, il est de nouveau suspect en tant que communiste, mais parce que c'est l'État français, l'État vichiste, qui est aux commandes. Donc il est incarcéré pendant plusieurs mois, retenu en détention dans l'Oise, avant d'être libéré, puisqu'il n'est pas considéré comme véritablement dangereux. Et c'est à ce moment-là, donc à son retour à Paris en 1942, qu'il va chercher à participer à la résistance, ce qu'il va véritablement pouvoir faire à partir de 1943, au sein d'un mouvement. C'est une des caractéristiques initiales de ces mouvements de résistance. Un mouvement qui, initialement, ne veut pas forcément passer à l'action armée. Ça fait partie des ressorts de cette action. Mais c'est aussi et surtout la distribution de tracts, le recrutement d'agents et éventuellement la presse clandestine. Ce qui est plutôt une disposition de Missak.
Voilà, donc il passe par la case prison, il s'engage ainsi dans la résistance. Et puis plus tard dans son parcours, on trouve les FTP-MOI, les francs-tireurs et partisans, main-d'œuvre immigrée. C'est quoi ?
Alors les FTP-MOI, c'est un mouvement de résistance communiste. Alors, les FTP sont créés en avril 1942, c'est les francs-tireurs et partisans. Et dans ces francs-tireurs et partisans, il y a des sections, donc les MOI, donc les main-d'œuvre immigrée, qui en réalité sont déjà en place dès la fin des années 20. Ce sont en fait des groupes de main-d'œuvre créés sur une base linguistique principalement. Il y a des MOI italiens, yiddish et donc arménien qui est mêlé avec un certain nombre de yiddish, qui vont donc constituer des ressources dans le contexte de cette guerre de résistance pour le Parti communiste, pour avoir une action concrète sur le territoire français. Et donc, Missak rejoint ces FTP-MOI au début de l'année 43, au sein d'une section parisienne, avec laquelle il va participer à un certain nombre d'opérations. Et alors là, les chiffres vont être importants, puisque sur l'ensemble de son activité au sein des FTP-MOI, il a en gros participé à une trentaine d'opérations sur l'année dans laquelle il va pouvoir être actif. Une seule véritablement armée où il est actif dans cette opération. Il envoie une grenade dans un commissariat à Levallois, un commissariat allemand à Levallois. Il fait surtout du recrutement et planifie en fait, c'est un groupe qu'on va appeler le groupe des dérailleurs, il planifie des attentats, mais aussi des opérations qui visent des gradés allemands. Et c'est un peu ce qui va précipiter la chute de Missak et de ses compagnons de lutte. L'attentat contre un colonel SS qui était en charge du service travail obligatoire en France, Julius Ritter, en 1943. Mais donc, les chiffres comptent, puisque donc, Missak passe à la postérité, on va y venir ensuite, mais Missak, finalement, n'a été un acteur important dans ces FTP-MOI qu'un an, et donc son engagement en février 43, et puis son passage en tant que chef militaire du groupement de Paris en août 43. Et il est arrêté en novembre 43, donc là en fait on a eu une période d'activité assez courte par rapport à ce qui va lui être attribué ensuite, à la fois par la propagande nazie et puis ensuite par la mémoire communiste.
Bon, alors je sais que votre bienveillance d'enseignant vous fera dire qu'il n'y a pas de questions bêtes, alors j'ose celle-ci. Finalement, pourquoi Missak et Méliné Manouchian s'engagent dans la résistance pour un pays qui, en soi, dans les institutions de l'époque, les rejette ?
Ils s'engagent parce qu'il y a d'une part l'héritage de la Révolution française, qui est très présent chez Missak, qui est très clair. Son amour de la culture française et des lettres est aussi inscrite dans cet héritage-là. Il y a aussi leur conviction communiste et antifasciste qui, en fait, supplante toute appartenance nationale. Il faut voir aussi Missak et Méliné comme les immigrés arméniens qu'ils sont. Ce sont des victimes d'un génocide, déracinés. Donc pas forcément accueillis dans les meilleures conditions, mais ça reste mieux entre guillemets que la Turquie de l'époque. Et puis l'appartenance nationale finalement n'est pas tellement importante. Ce qui compte par-dessus tout, c'est l'engagement politique, l'engagement communiste en l'occurrence, qui est un internationalisme. Et donc ce n'est pas tant une résistance pour la France, même si, évidemment, cela compte, qu'une résistance contre le nazisme qui motive cette lutte de Missak et Méliné, étant entendu que la France les a quand même mieux accueillis, entre guillemets, relativement mieux que l'Empire ottoman de l'époque.
Donc l'obéissance au parti communiste est peut-être le rêve d'un monde sans frontières ?
Oui, c'est clairement ce qui motive, c'est l'idéal final, entre guillemets, hein. Un monde où la hiérarchie est renversée, où les républiques soviétiques s'entendent pour faire régner la paix, puisque le pacifisme hein, est vraiment un des cœurs de leur engagement.
Alors je lis ici une citation de Méliné Manouchian. Elle écrit « Missak et moi étions deux orphelins du génocide. Nous n'étions pas poursuivis par les nazis. Nous aurions pu rester cachés, mais nous ne pouvions pas rester insensibles à tous ces meurtres, à toutes ces déportations de juifs par les Allemands, car je voyais la main de ces mêmes Allemands qui encadraient l'armée turque lors du génocide arménien. » Peut-être que ça répond aussi à la question. Et je vous propose d'écouter maintenant Léo Ferré qui chante L'Affiche rouge. On pourra en revenir après cette pause musicale sur cette fameuse affiche rouge d'Amien Accoulon. Je pense que vous pourriez nous en dire quelque chose. A tout de suite dans La Méridienne.
Vous n'avez réclamé la gloire, ni les larmes, ni l'orgue, ni la prière aux agonisants. 11 ans déjà, que cela passe vite, 11 ans, vous vous étiez servi simplement de vos armes. La mort n'éblouit pas les yeux des partisans. Vous aviez vos portraits sur les murs de nos villes, noirs de barbe et de nuit, hirsutes, menaçants. L'affiche qui semblait une tache de sang, parce qu'à prononcer vos noms sont difficiles. Ils cherchaient un effet de peur sur les passants. Nul ne semblait vous voir français de préférence. Les gens allaient sans yeux pour vous le jour durant. Mais à l'heure du couvre-feu, des doigts errants avaient écrit sous vos photos « Mort pour la France ». et les mornes matins en étaient différents. Tout avait la couleur uniforme du givre. À la fin février, pour vos derniers moments. Et c'est alors que l'un de vous dit calmement: bonheur à tous, bonheur à ceux qui vont survivre. Je meurs sans haine en moi pour le peuple allemand. Adieu la peine et le plaisir, adieu les roses, adieu la vie, adieu la lumière et le vent. Marie-toi, sois heureuse et pense à moi souvent, toi qui vas demeurer dans la beauté des choses. Quand tout sera fini plus tard, en arrivant, un grand soleil d'hiver éclaire la colline, que la nature est belle et que le cœur me fend. La justice viendra sur nos pas triomphants, ma Mélinée, oh mon amour, mon orpheline. Et je te dis de vivre et d'avoir un enfant. Ils étaient 23 quand les fusils fleurirent, 23 qui donnaient leur cœur avant le temps, 23 étrangers et nos frères pourtant, 23 amoureux de vivre à en mourir, 23 qui criaient la France en s'abattant.
C'était Léo Ferry, l'affiche rouge sur Radio Campus Tours. Vous écoutez La Méridienne. Alors je me tourne vers mon invité Damien Coulon. C'est quoi cette histoire d'affiche rouge ?
L'affiche rouge, c'est ce qui fait que Missak Manouchian est aujourd'hui au Panthéon, hein, on pourrait le dire ainsi. L'affiche rouge, c'est une idée du comité d'action anti-bolchévique, donc des ultra-collaborateurs, hein, partisans de l'Allemagne nazie. Qui voit une occasion de faire de la propagande en exposant des noms et des visages sur une affiche de couleur rouge, de sorte à ce qu'elle soit bien visible dans l'espace public. Il y en a environ 15 000 qui sont répartis dans les grandes villes françaises, et qui va donc mettre en cause ces résistants qui ont été arrêtés en même temps que Missak Manouchian. Hein, c'est un groupe de résistants qu'on va appeler par la suite groupe Manouchian, mais qui en réalité a plusieurs visages, et qui accuse donc 10 résistants parmi la vingtaine d'arrêtés, avec ce titre, délibérateur, point d'interrogation, la libération par l'armée du crime. Et donc qui désigne en réalité ces résistants comme des terroristes. Missak Manouchian est traité de chef de bande, hein, comme s'il s'agissait d'une petite frappe, hein, d'un bandit. Et donc, au sein de cette affiche, dans une forme triangulaire, on expose des visages et des noms en leur attribuant des méfaits. Parmi ces 10 visages, il y a 7 juifs, ce qui permet ici de s'inscrire pleinement dans la vision du monde nazi, hein, dans cette dénonciation justement du complot judéo-bolchevique qu'on évoquait plus tôt, donc de cette dénonciation des terroristes, des étrangers comme des menaces, et des juifs là aussi. L'objectif de cette affiche, c'est de montrer que ces étrangers sont des facteurs de désordre, ce qui correspond donc bien à cette vision du monde nazi qui hiérarchise les races, hein, et qui stigmatise l'étranger, alors même qu'il y a 3 Français parmi les personnes qui ont été arrêtées, parmi ces 23 condamnés à mort, Roger Rouxel, Georges Cloarec et Roger Viatchiste, qui donc sont français, mais sont assimilés justement à ces étrangers dangereux qui en réalité sont des résistants à l'occupation nazie. En complément donc de ces noms et de ces visages qui cherchent à stigmatiser, donc on attribue des actions et en particulier des chiffres assez fantaisistes à la suite de, notamment du nom de Missak Manouchian, donc qui est présenté comme le chef de cette organisation. On a dit en réalité il est un des chefs, mais pas l'unique chef. On lui présente, on lui attribue plutôt 56 attentats, 150 morts, 600 blessés, alors que, je le disais, il a participé, il a contribué plutôt, tout au plus, à une trentaine d'actions. Alors, ce n'est pas pour minimiser les actions, hein, évidemment, c'est quand même, dans un contexte tel, c'est d'une bravoure sans nom. Mais là, les chiffres sont très largement gonflés par cette propagande collaborationniste et nazie pour les besoins de cette propagande. Et donc, cette affiche par sa qualité visuelle, c'est très parlant aussi, explicite, qui a été très diffusée à la fois pendant la guerre dans les grandes villes, mais aussi ensuite dans les manuels scolaires. Je pense qu'il y a un certain nombre des auditrices et des auditeurs qui ont été déjà exposés à cette affiche par leur scolarité, puisqu'elle est très pratique en fait. Elle permet véritablement de déconstruire les ressorts de la propagande et en même temps de montrer la diversité de la résistance française à l'époque. Cette affiche est devenue emblématique, d'autant qu'elle a fait l'objet, dans les années d'immédiate après-guerre, d'un relatif culte. On vient d'entendre Léo Ferré, mais donc c'est un poème également issu d'un texte d'Aragon. Et Paul Éluard, lui aussi, a parlé, a évoqué de cette mémoire communiste, en réalité, de la résistance.
Bon, finalement, ça fait un peu un bide, quand même, cette affiche. Ça provoque l'effet inverse.
Oui, puisque elle fait connaître ses résistants. Et évidemment, on a une population française qui n'adhère pas forcément, complètement, en tout cas dans son intégralité, à cette propagande collaborationniste. Et à l'inverse, ces résistants qui auraient été tout à fait anonymes dans un autre contexte, on ne connaît pas les noms de beaucoup de résistants aujourd'hui en France, à l'inverse, a fait de Missak Manouchian et de ses compagnons de lutte un symbole de cette résistance. Elle a fini par faire connaître davantage les résistants, en plus des procès qui entourent procès qui sont largement montés, mais qui sont très relayés, en tout cas, par les journaux collaborationnistes à l'époque, qui vont faire connaître le nom de Manouchian.
Peut-être un mot, justement, sur le rôle de la presse à l'époque, sur le relais de ces idées nazies et vichistes.
Oui, alors dans le contexte de la France occupée, de la zone nord en particulier, la liberté de la presse est inexistante. Les quelques journaux qui paraissent sont des journaux autorisés par l'occupant nazi, et ce sont donc des journaux qui s'engagent pleinement dans le collaborationnisme, vraiment dans une radicalité assez importante, et qui sont pleinement acquis au nazisme. Et donc on a une rhétorique ici qui est absolument univoque, pas de débat d'idées ni d'opinions, mais qui, à l'inverse, vont diffuser très largement le point de vue de l'occupant et de ses collaborateurs, et qui permettent néanmoins de faire circuler des informations pour les Français, de s'informer d'une manière très biaisée, excessivement biaisée, mais de s'informer néanmoins, en complément de la presse clandestine qui ne dispose malheureusement pas des mêmes moyens.
Est-ce que vous voudriez citer quelques titres de presse de l'époque ?
L'un des principaux journaux collaborationnistes, c'est Le Matin. C'est un des seuls, un des grands journaux de l'entre-deux-guerres, et un des seuls en fait à revenir à Paris, à revenir s'installer dans ses locaux à Paris. Alors que la plupart des autres soit arrêtent de publier, soit voient leurs locaux repris par l'occupant et diffusent des informations collaborationnistes. Donc Le Matin, si on veut, c'est un des grands exemples de cette presse qui, justement, ne revoit pas le jour après 1944. La Libération met un terme au Matin, tandis que des journaux qui avaient cessé de paraître un peu plus tôt, à l'exemple du Figaro, eux, ont pu reparaître.
Bref. Je cite, 23 terroristes, presque tous étrangers, ont été condamnés à mort par la cour martiale de Paris, 21 février 1944. Alors, Missak Manouchian est-il condamné et exécuté par la France de Vichy ?
Alors, ce n'est pas la France de Vichy qui l'exécute à proprement parler. Il est arrêté par la France de Vichy, par les forces de police de Vichy, hein. Les renseignements généraux. Il est interrogé, torturé, vraisemblablement davantage avant d'être ensuite remis aux autorités allemandes qui organisent un conseil de guerre pour juger. Évidemment, l'issue est courue d'avance et il s'agit plutôt d'une parodie de procès, mais qui néanmoins met en scène ces procès aussi pour les besoins de la propagande en février 43 et en février 44, pardon, c'est bien les autorités allemandes avec le soutien de Vichy qui mène ces procès, qui condamne à mort donc 23 hommes et une femme. Donc on aura 23, les 23 hommes sont fusillés au Mont Valérien ce 21 février 44. Tandis que Olga Bancic, l'unique femme, est elle guillotinée quelques mois plus tard dans une prison allemande.
Je vous propose d'écouter une courte archive INA. C'est un extrait de la dernière lettre de Missak à sa femme Mélinée. Donc c'est une archive du 20h de TF1 de 1984 et on voit ensuite Mélinée Manouchian qui réagit à ce qu'elle vient d'écouter.
Novembre 43. Peu après leur attentat réussi contre un haut responsable nazi, Manouchian et ses camarades, trahis sans doute par l'un des leurs, sont arrêtés. Et en février 44, ils écrivent leur dernière lettre.
21 février 1944. Ma chère Méline, ma petite orpheline bien-aimée. Dans quelques heures, je ne serai plus de ce monde. Nous allons être fusillés cet après-midi à 15h. Cela m'arrive comme un accident dans ma vie. Je n'y crois pas. Mais pourtant, je sais que je ne te verrai plus jamais. Que puis-je t'écrire ? Tout est confus en moi et bien clair en même temps. Je m'étais engagé dans l'armée de la Libération en soldat volontaire. Et je meurs à deux doigts de la victoire et du but. Bonheur à ceux qui vont nous survivre. Et goûter la douceur de la liberté et de la paix de demain.
Mélinée Manouchian, vous avez connu deux guerres. Quelles leçons tirez-vous ?
Oui, pendant la Première Guerre mondiale, je suis devenu orpheline. Pendant la Deuxième, veuve. C'est pour ça que je voudrais que désormais, on soit des combattants de la paix pour qu'il n'y ait plus des orphelins et des veuves.
Voilà, c'était une archive INA, donc Mélinée Manouchian écoutant sur un tourne-disque le texte de la dernière lettre de son mari, récité ici par Michel Bouquet. Alors Damien Coulon, qu'est-ce que vous aimeriez dire suite à l'écoute de cette archive ?
D'abord que c'est l'une des grandes forces de ce couple Manouchian, c'est cette dernière lettre de Missak qui est absolument bouleversante, c'est un poète hein, qui justement arrive à véhiculer une émotion forte, à dire en fait aussi toute la bêtise et l'horreur de cette guerre. Il ajoute également une forte humanité, plus généralement, à cette résistance, puisqu'il dit un peu plus tard dans cette lettre, qu'il meurt sans haine pour les Allemands, ce qui, là aussi, l'amène à distinguer les Allemands et les nazis, donc aussi, on est à quelques heures avant de mourir, à avoir ce recul sur, sur la manière d'analyser la guerre et ses exactions, c'est quand même assez, assez incroyable. Et puis, donc ça rappelle également l'engagement de Méliné pour le pacifisme, hein, donc cet antifascisme qui est encore souligné. Et donc cette lettre, hein, c'est aussi ce qui fait que le couple Manoukian résonne encore et fait de Missak un modèle qui peut propre à inspirer, ce qui fait sans doute qu'il se retrouve au Panthéon aujourd'hui.
Et alors, peut-être un mot sur Annette Viviorca, je crois, qui regrettait peut-être que, voilà, on s'intéresse beaucoup à cette idée de couple glamour, mais qu'on oublie presque leur compagnon.
Oui, absolument. C'est un peu la contrepartie, justement, de cette personnalisation des figures de Missak et Méliné Manoukian comme symbole de la résistance également des étrangers en France, c'est que en mettant Missak et Méliné au Panthéon, on les sépare de leurs compagnons de lutte. Et notamment, hein, c'est un engagement collectif, on l'a dit, Missak Manoukian, c'est un membre presque parmi d'autres, même s'il fait partie des chefs, mais typiquement les autres chefs, on n'en parle pas, Reimann, Bokhov, voilà, sont absents en fait de cette appellation de groupe Manoukian. Ça va aussi gommer les origines, la diversité de ce groupe. Parmi ces 22 fusillés, on a des juifs. Sur la fiche rouge, ils étaient 7 parmi les 10 noms exposés. On a des Polonais, des Français, des Espagnols, des Italiens. Leur point commun, c'était leur engagement politique contre, dans cette résistance, contre le fascisme et le nazisme. Et donc, en extrayant ce couple, donc Missak et Méliné, Méliné qui reste ainsi avec Missak, mais qui n'était pas à proprement parler parmi ce groupe de fusillés, puisque donc elle lui survit, elle fait aussi la mémoire de ce groupe, on enlève en partie cette dimension de l'engagement et de la résistance. On en fait. À l'inverse, on va focaliser davantage sur cette relation entre Missak et Méliné, cette lettre magnifique, mais qui tente à occulter en partie donc cette diversité. Ce qui fait que y a un certain nombre d'historiens et d'historiennes, dont Annette Viviorca, hein, qui ont alerté en partie par une lettre ouverte sur ce risque d'occulter véritablement cet engagement. Ce qui fait que une fois que la décision a été prise de faire entrer au Panthéon Missak et Méliné, a été ajoutée par la suite une plaque rappelant à côté donc de leur tombeau le nom des 23 exécutés et de leur chef, Joseph Epstein, qui avait également été exécuté à une autre date.
Voilà, donc là, on est après la guerre, donc il y a eu plusieurs dates avant l'entrée au Panthéon, diverses reconnaissances de l'engagement de Missak Manoukian. Donc il y a par exemple la médaille de la résistance française à titre posthume. Voilà, il y a aussi... vous avez dit l'entrée au Panthéon, mais il y a aussi divers autres événements. Qu'est-ce que vous voudriez en dire de ce mythe de la France résistante et du coup de se dire petit à petit on les réintègre, disons, dans le récit national, comment c'est ça?
Oui, absolument. Donc à la suite de la libération, donc à la fin 44. Immédiatement après, en février 45, donc un an après l'exécution de ce qu'on appelle le groupe Manoukian à partir de là, une commémoration est organisée au cimetière d'Ivry en présence de Méliné Manoukian pour honorer justement ces fusillés communistes. Et le groupe Manoukian va faire partie, va être pleinement intégré, va même être un symbole finalement, de la résistance communique dans un contexte de sortie de guerre où une concurrence nouvelle intervient entre les résistants, notamment les gaullistes d'une part et puis les communistes d'autre part, qui constituent des forces politiques importantes dans la France à reconstruire et qui doivent faire connaître, qui essaient de faire connaître qu'ils ont été des acteurs majeurs, sinon les principaux acteurs de cette résistance. Et donc Missak devient un symbole avec le groupe Manouchian de cette résistance communique, un parti qui se revendique parti des 100 000 fusillés, avec donc une exagération très nette sur les chiffres. En réalité, on est à quelques milliers, mais certainement pas 100 000, ça reste de toute façon trop. Ça va en tout cas faire de Manouchian un symbole, ce qui fait que voilà, ce n'est pas pour rien que ce sont Louis Aragon, Léo Ferré ou Paul Éluard qui font les louanges et qui entretiennent la mémoire du groupe Manouchian. C'est bien parce qu'ils s'inscrivent dans une mémoire politique de cette résistance en France. Ce qui va avoir des conséquences sur la manière dont est reconnu cet engagement, puisque le communisme restant un parti d'opposition, on va dire, dans la France de ce qu'on appelle le second XXe siècle, donc dans la deuxième moitié du XXe siècle, cette mémoire de Manouchian est relativement cantonnée au monde communiste. Il faut attendre les années 80, véritablement, pour voir les premiers hommages officiels dans le contexte de la France socialiste mitterrandienne, pour voir le nom de Manouchian reconnu publiquement, et puis plus tard, donc les années 2010, donc une France de nouveau socialiste, mais hollandaise cette fois-ci, pour voir émerger la proposition donc de Manouchian et du couple Manouchian au Panthéon. Un comité qui se forme à partir de 2014 et qui va réunir un certain consensus progressivement entre les forces politiques jusqu'à donc la décision de la panthéonisation en 2023.
Est-ce qu'on peut dire que le devoir de mémoire est à géométrie variable ?
Ça dépend ce qu'on considère comme une géométrie variable. En réalité, cette question de la Seconde Guerre mondiale a été, et reste dans une certaine mesure, mais moins fortement que dans les années 80, ça a été une question brûlante pour les mémoires, puisqu'on avait des acteurs qui étaient partie prenante de cette histoire dans la Seconde Guerre mondiale, qui occupait des positions de pouvoir dans les décennies suivantes. Et donc ça divisait le pays. Il y a une mémoire, évidemment, de la France tout entière résistance, et aussi une mémoire collaborationniste plutôt contestataire, en tout cas qui se fait discrète relativement dans les décennies suivantes, avant les années 80, la décennie 80 qui est celle des grands procès d'anciens collaborationnistes, qui va raviver les plaies, pour ainsi dire, et mettre au jour, justement, le dissensus qui reste fort à cette époque. Et ces années 80, c'est vraiment celle où émerge le concept de devoir de mémoire. Vous avez un ouvrage de Sébastien Ledoux qui, justement, est consacré à cette question du devoir de mémoire. C'est une notion qui n'a pas véritablement cours avant les années 80 et qui devient très forte dès lors. Et aujourd'hui, on reste encore très fortement imprégné de ce concept de devoir de mémoire. Cette idée qu'il faut conserver une mémoire à tout prix pour ne pas oublier les engagements. Et ce corollaire de ce devoir de mémoire, c'est la concurrence des mémoires. Donc là, on l'observe très bien avec le cas de la résistance, et c'est ça qui le rend si intéressant. C'est qui on honore, de quelle manière, pour quelle raison. Et donc, la mémoire gaulliste qui s'était imposée à l'issue de la Seconde Guerre mondiale, qui était partiellement contestée par la mémoire communiste, se retrouve finalement à partir des années 80 pour arriver progressivement à un consensus sur la possibilité d'honorer ces différentes mémoires. Mais cela passe aussi finalement par une sorte d'aseptisation de cette mémoire, puisque on n'a pas tellement entendu finalement le côté politique, la dimension politique de cette résistance honorer le couple Manoukian, c'est aussi un moyen de ne pas évoquer, de ne pas insister aussi fortement que c'était le cas auparavant, de la dimension collective de cet engagement du groupe Manoukian-Bokchoff-Rehman.
Est-ce qu'on peut dire aussi que ce couple Manoukian, finalement, ça peut être des figures, alors utiles, j'exagère, mais en tout cas intéressantes, disons en 2024, avec, disons pour intervenir auprès des jeunes, des lycéens, des collégiens, parce que ça questionne aussi la place des migrants, entre guillemets, des fils de migrants. Voilà, ça permet de parler aussi d'antisémitisme, de fuite, de régime autoritaire vers la France, et aussi de la montée de l'extrême droite, en oubliant qu'ils sont communistes.
Oui, alors dans une certaine mesure, bon, c'est le propre de la panthéonisation, c'est de présenter des exemples, des vies jugées modèles, exemplaires, à l'issue d'un relatif consensus. Alors l'antisémitisme, justement, c'est aussi pour ça que Annette Vivorka était aussi virulente, entre guillemets, face à cette décision du couple glamour plutôt que du groupe, c'est que ça a occulté complètement, certes, on mettait des apatrides au Panthéon, mais on occultait complètement la résistance juive, alors même que dans ce groupe de fusillés, la majorité était des juifs. Donc que là, ici, l'antisémitisme n'est pas tellement exploitable, mais ça reste une dimension qu'on peut évoquer à partir de ces questions de la résistance, de la Seconde Guerre mondiale. En revanche, je suis parfaitement d'accord sur le fait qu'ici, on a une ouverture progressive des profils dans le contexte de ces panthéonisations. Celui qui devait incarner la résistance dans son intégralité au départ, c'était Jean Moulin en 64 avec le très célèbre discours de Malraux. Voilà.
Justement, entre ici, Jean Moulin.
Absolument. Donc avec ton cortège, justement. Et ça devait rester un symbole définitif, entre guillemets. Sauf que voilà, le résistant Jean Moulin est un résistant très particulier. C'est un chef de la résistance, un fonctionnaire, homme blanc, évidemment. Ce qui ne comptait pas tellement, entre guillemets, dans la pensée commémorative en 64, ce qui devient une question beaucoup plus pressante aujourd'hui. Et dans cette réflexion, Joséphine Becker avait été, dès novembre 2021, présentée comme un moyen de représenter, d'incarner davantage la diversité de la France et de la résistance, puisque Joséphine Becker était aussi une résistance, mais elle avait été naturalisée française. Et donc là, on passe encore à une étape supérieure avec le couple Manoukian, même si cela conserve ses limites. Sur la question de l'antisémitisme, justement, je ne sais pas si c'est une dimension de la décision qui a été prise, mais en tout cas ça permettrait en partie de résoudre la question. C'est la panthéonisation annoncée de Marc Bloch qui aura lieu donc le 16 juin 2026. Marc Bloch, qui est un historien, donc dans notre profession on ne peut que se réjouir, puisque c'est vraiment un des fondateurs de l'école historique française, qu'on appelle l'école des annales. Donc c'est vraiment un grand intellectuel qui et d'ascendance juive, même si c'était un juif laïque, hein, peu pratiquant. Néanmoins, il est ici, il pourrait être l'exemple, le rajout, si vous voulez, à cette diversité, ce qui permettrait là aussi, en analysant les différents profils, d'aborder un peu cette diversité de sujets que vous évoquiez. Ici, c'est particulièrement intéressant, quand on étudie l'histoire, de voir comment une histoire, à travers le temps, est approprié dans les mémoires, qui sont des mémoires à la fois individuelles et collectives, et comment les institutions se saisissent de ces mémoires pour les reconnaître ou les disqualifier, et de la manière de juger justement opportun ou non de mettre en valeur une mémoire, de la sacraliser en quelque sorte, puisque le Panthéon, c'est un temple républicain, un temple laïque, c'est une ancienne église, mais justement pour rendre hommage aux grands de la nation. Donc dans le contexte d'une approche historique d'un cours d'histoire, c'est vraiment un objet particulièrement intéressant, à mon avis.
Donc 16 juin 2026, entrée de Marc Bloch au Panthéon, et avant ça, le 9 octobre, c'est Robert Badinter.
Oui, absolument. Bon, sur un autre sujet, l'abolition de la peine de mort, mais là aussi, on est dans un contexte, en tout cas, on a un président de la République qui est manifestement attaché à cette dimension commémorative, de rendre des exemples, de mobiliser, parce que c'est aussi un élément fédérateur, si vous voulez. Il y a peu de moyens de contester... La pertinence de ces panthéonisations, elles sont tout à fait méritées, tout à fait légitimes, et ça force le consensus. C'est ce qu'on avait déjà observé d'ailleurs lors du précédent mandat de François Hollande. Hein, finalement, il a été très critiqué pour différentes raisons sur lesquelles je ne reviendrai pas, mais la politique mémorielle, la politique cérémonielle et commémorative fait partie des acquis de son mandat, avec en plus cette dimension humoristique, mais qui le rendait pratique de commémorer sous la pluie. Là, vous avez en fait quelque chose, un élément politique fédérateur pour pas cher, entre guillemets.
Merci à vous, Damien Accoulon, d'être venu dans cette émission La Méridienne, qui est légèrement débordée, hein, il est midi 15. Comment vous aimeriez conclure cette émission autour de Missak et Méliné Manouchian?
En vous remerciant d'abord, et puis me féliciter que ce soit des sujets qui intéressent, et de voir que finalement c'est un résultat des panthéonisations. On peut mettre en lumière des figures originales, des figures historiques qui permettent de réfléchir différemment à l'histoire. Donc voilà, vraiment en vous remerciant.
Merci à vous. Donc, je rappelle que vous êtes maître de conférences en histoire contemporaine à l'université de Tours. Vous faites partie du laboratoire CETIS et que vos recherches portent plutôt sur l'aéronautique. Donc voilà, je crois que vous avez un livre qui va arriver prochainement.
Oui, le livre qui est issu de ma thèse sur les aviateurs de la Première Guerre mondiale en France et en Allemagne, donc, parce que je suis aussi historien des guerres, et donc un livre... qui apparaître a priori à la prochaine rentrée.
Voilà, bon bah vous reviendrez pour parler des As du Ciel alors.
Avec plaisir, merci.
Merci à vous, et on va se quitter en écoutant Pierre Dac, Bagatelle sur un tombeau, je résiste pas. Bonne journée à toutes et à tous, à l'écoute évidemment de nos excellents programmes, et je rappelle que cette émission est à réécouter à volonté en podcast sur notre site radiocampustour.com.
Écoutez maintenant Bagatelle sur un tombeau. Monsieur Henriot s'obstine. Monsieur Henriot est buté. Monsieur Henriot ne veut pas parler des Allemands. Je l'en ai pourtant prié de toutes les façons, par la chanson, par le texte, rien à faire. Je ne me suis attiré qu'une réponse pas du tout aimable, ce qui est bien étonnant, et qui, de surcroît, ne satisfait en rien notre curiosité, pas question des Allemands. C'est entendu, monsieur Henriot. En vertu de votre théorie raciale et nationale-socialiste, je ne suis pas français. À défaut de Croix Gamée et de Francisque, j'ai corrompu l'esprit de la France avec le Samuel. Je me suis, par la suite, vendu aux Anglais, aux Américains et aux Soviets. Et pendant que j'y étais, je me suis également vendu aux Chinois. C'est absolument d'accord. Il n'empêche que tout ça ne résout pas la question. La question des Allemands. Nous savons que vous êtes surchargé de travail et que vous ne pouvez pas vous occuper de tout, mais tout de même, je suis persuadé que les Français seraient intéressés au plus haut point si, à vos moments perdus, vous preniez la peine de traiter les problèmes suivants dont nous vous donnons la nomenclature, histoire de faciliter votre tâche et de vous rafraîchir la mémoire. Premièrement, le problème de la déportation et des camps de la mort. Deuxièmement, le problème des prisonniers. Troisièmement, le traitement des déportés et des prisonniers. Quatrièmement, le statut actuel de l'Alsace-Lorraine et l'incorporation des Alsaciens-Lorrains dans l'armée allemande. Cinquièmement, les réquisitions allemandes et la participation des autorités d'occupation dans l'organisation du marché noir. Sixièmement, le fonctionnement de la Gestapo en territoire français et en particulier les méthodes d'interrogatoire. Septièmement, les déclarations du Führer dans Mein Kampf concernant l'anéantissement de la France. Peut-être me répondrez-vous, monsieur Henriot, que je m'occupe de ce qui ne me regarde pas. Et ce disant, vous serez logique avec vous-même, puisque, dans le laïus que vous m'avez récemment consacré, vous écriez notamment et où nous atteignons les cimes du comique, c'est quand notre DAC prend la défense de la France. La France, qu'est-ce que cela peut bien signifier pour lui? Eh bien, monsieur Henriot, sans vouloir engager de vaines polémiques, je vais vous le dire, ce que cela signifie pour moi, la France. Laissez-moi vous rappeler, en passant, que mes parents, mes grands-parents, mes arrière-grands-parents et d'autres avant eux sont originaires du pays d'Alsace, dont vous avez peut-être, par hasard, entendu parler, et en particulier de la charmante petite ville de Niederbronn, près de Haguenau, dans le Bas-Rhin. C'est un beau pays, l'Alsace, monsieur Henriot, où, depuis longtemps, on sait ce que cela signifie la France, et aussi ce que cela signifie l'Allemagne. Des campagnes napoléoniennes, en passant par celles de Crimée, d'Algérie, de 1870-71, de 14-18, jusqu'à ce jour, on a dans ma famille, moi y compris, monsieur Henriot, lourdement payé l'impôt de la souffrance, des larmes et du sang. Voilà, monsieur Henriot, ce que cela signifie pour moi, la France. Alors, pourquoi ne pas nous dire ce que cela signifie pour vous, l'Allemagne? Un dernier détail, puisque vous avez si complaisamment cité les prénoms de mon père et de ma mère, laissez-moi vous signaler que vous en avez oublié un, celui de mon frère. Je vais vous dire où vous pourrez le trouver. Si d'aventure vos pas vous conduisent du côté du cimetière Montparnasse, entrez par la porte de la rue Froidevaux. Tournez à gauche, dans l'allée, et à la sixième rangée, arrêtez-vous devant la dixième tombe. C'est là que reposent les restes de ce qui fut un beau, brave et joyeux garçon, fauché par les obus allemands le 8 octobre 1915 aux attaques de Champagne. C'était mon frère. Sur la modeste pierre, tous ses noms, prénoms et le numéro de son régiment, on lit cette simple inscription. Mort pour la France à l'âge de 28 ans. Voilà, monsieur Henriot, ce que cela signifie pour moi, la France. Sur votre tombe, si toutefois vous en avez une, il y aura aussi une inscription. Elle sera ainsi libellée. Philippe Henriot, mort pour Hitler, fusillé par les Français. Bonne nuit, monsieur Henriot, et dormez bien, si vous le pouvez.